C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, et si George Orwell avait vu juste dans son célèbre roman d'anticipation 1984, l'écrivain britannique annonçait dès 1949 une ère d'ultra-surveillance sous l'œil de Big Brother, ce grand frère dictateur prêt à épier par écran interposé les faits et gestes de chacun. Nous n'en sommes pas tout à fait là, heureusement, mais les risques de dérive existent. Notre activité frénétique sur nos téléphones et sur nos ordinateurs laisse des traces. Notre environnement numérique serait donc une menace, pas si nous apprenons à l'apprivoiser pour protéger notre vie privée. Data, mode d'emploi, c'est parti.
C'est pas du vent sur RFI.
J'étais content de changer de fonction. Quand on m'a affecté à la surveillance des menaces terroristes, chaque jour on me demandait de faire des recherches à l'aide du système SIGINT, qui permet d'intercepter toutes les communications téléphoniques ou électroniques. La plupart des suspects étaient américains. C'était étrange, évidemment, mais je me répétais que j'allais peut-être empêcher une attaque à la bombe sale et ainsi sauver des milliers de vies. Le problème, c'est qu'on espionne pas seulement l'individu ciblé, on suit toutes les métadonnées qu'il concerne. Ce qui comprend entre autres tous les numéros de téléphone qu'il compose. Supposons que notre suspect est un banquier iranien, un peu louche, qui travaille dans la ville de Beyrouth, au Liban. On surveille non seulement ses communications à lui, mais aussi celles de toutes les personnes à qui il parle. Y compris, par exemple, son cousin, qui est dentiste à Buffalo. On étend même la surveillance à tous les contacts de ce cousin. À 3 degrés du suspect d'origine, on se retrouve donc à écouter une conversation anodine entre une serveuse et sa mère qui se parlent de Botox. C'est exponentiel. Si on fait 3 bonds à partir d'un individu qui a 40 contacts, on aboutit à une liste de 2,5 millions de personnes. Un jour, toute l'ampleur de ce contrôle m'a frappé de plein fouet. La NSA suit à la trace tous les téléphones cellulaires du monde. Peu importe qui vous êtes, chaque jour de votre vie, vous figurez dans une base de données qui permet à des gens d'épier vos moindres gestes. Ce n'est pas uniquement les terroristes, les gouvernements ou les entreprises qu'on espionne. C'est vous.
Un extrait du film Snowden de Oliver Stone qui revient sur les révélations faites par le lanceur d'alerte Edward Snowden en 2013. Il a dénoncé la collecte illégale d'informations par la NSA sous prétexte de lutte antiterroriste, vous vous en rappelez. Voilà dans quel environnement nous vivons. Alors pour en parler plus en détail, je vous présente tout de suite nos invités. Honneur aux dames, Isabelle Landreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, co-auteur du rapport du think tank Génération Libre « Mes datas sont à moi ». Et délégué à la protection des données. Alors, c'est une nouvelle profession que vous nous présenterez dans un instant. À vos côtés, Tristan Nitto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fan d'informatique et d'internet. D'ailleurs, je vais cafeter, depuis que vous êtes assis, vous ne quittez pas l'écran de votre téléphone.
Oui, mais je suis en mode avion quand même. Hein.
Ah, vous êtes en mode avion quand même, vous êtes en mode restreint, vous avez été suivi les directives.
C'est là que je prends mes notes en fait pour l'émission.
Ah, d'accord, c'est très bien. Et donc, vous souhaitiez que je vous présente comme un fan d'informatique et d'internet, un fan averti, hein, puisque vous avez publié Surveillance, les libertés au défi du numérique, comprendre et agir chez CEF Éditions. Et vous avez lancé Mozilla Europe, que vous avez quitté aujourd'hui, ça s'est fait en 2003.
J'ai lancé Mozilla Europe en 2003.
Rappelez-nous ce que c'est rapidement.
Et ben, c'est l'organisation à but non lucratif qui fait Firefox, le navigateur web, qui a plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde.
Et aujourd'hui, vous avez quitté Mozilla.
Et voilà, et il y a 3 ans, j'ai rejoint Cozy Cloud, qui est une start-up française qui fait des logiciels qui permettent d'utiliser ces données sans qu'elles soient espionnées par des tiers.
C'est cela dont nous allons parler, entre autres, aujourd'hui. À vos côtés, Olivier Labbé, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur général de CapDC, c'est une filiale de Cap Ingelec, c'est un spécialiste français de la construction et de la rénovation de data centers, et vous exportez votre savoir-faire en Afrique francophone de plus en plus.
Alors, c'est récent. Ça date de 3 ans, mais je pense que c'était le moment d'y aller, parce que l'Afrique est en train de connaître son boom numérique.
Et donc forcément, il y a des besoins en construction de data centers qui sont les bâtiments qui hébergent l'ensemble des serveurs informatiques.
Les fameuses données dont
voilà,
nous parlons.
Le cloud existe, il est sur Terre, il est dans les data centers.
Voilà, donc là aussi, il y a beaucoup d'informations à faire passer sur le continent africain. Et Samuel Guetta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex d'Aix-en-Provence grâce à nos collègues de France Bleu Provence. Et vous êtes un sociologue des données, ça existe ce métier ?
Oui, alors moi j'ai fait une thèse en sociologie sur le mouvement de l'open data, on aura l'occasion d'en reparler, la libération de données publiques, et je suis le cofondateur d'une coopérative qui s'appelle Data Activist et qui aide à l'ouverture de données et aussi à la réutilisation de données ouvertes.
Alors je précise que cette émission est réalisée en partenariat avec le magazine Qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour Alexandre Millet.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de ce magazine et vous allez nous expliquer, hein, comme l'indique le titre de votre magazine, ce que l'on fait avec tous nos invités pour bien se promener dans cet environnement numérique très particulier. Alors Isabelle Landreau, on va peut-être démarrer avec vous par une question très simple. Qu'est-ce qu'on appelle une donnée personnelle ?
Alors pour être précis, la donnée, ce n'est pas simplement une information. Hein. Donc la donnée, c'est une information sur un support numérique. Et la donnée personnelle, c'est une information sur un support numérique qui est reliée de façon directe ou indirecte à une personne. Donc l'identification peut être directe par le nom et le prénom, mais peut être indirecte par le numéro de carte bleue, numéro de carte vitale, bien sûr, toutes les traces que vous avez sur Internet.
Ce qu'on appelle la fameuse adresse IP, par exemple, qui est l'adresse de notre ordinateur.
Alors l'adresse IP, l'adresse Internet protocole, c'est un numéro qui est relié à un ordinateur et on considère que celui qui utilise l'ordinateur derrière l'écran et le propriétaire. Mais la jurisprudence est quand même divisée là-dessus. Il y a une jurisprudence minoritaire, notamment de la Cour d'appel d'Aix, qui dit que l'adresse IP n'est pas une donnée personnelle. De façon générale, la Cour de cassation reconnaît que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel et c'est déjà intégré dans le règlement général sur la protection des données.
Voilà, on voit que la loi est en train de s'écrire. Alors, Tristan Nitto, en quoi ces données nous échappent aujourd'hui ?
Eh ben, en fait, les données, on les échange quand on communique. Si je communique avec vous par texto ou par messagerie instantanée, déjà,
ça ne reste pas contre
nous. Une petite partie des données sont entre nous et déjà, vous avez une partie de mes données et réciproquement. Mais en fait, ces systèmes sont mis en place par des tiers et c'est un peu ça le problème. C'est que ces tiers financent leurs services avec de la publicité ciblée. C'est-à-dire que leur business, c'est tout savoir de chacun d'entre nous pour nous mettre dans des petites cases, quels sont nos intérêts, quelles sont nos opinions politiques, religieuses, etc., pour pouvoir mettre de la publicité qui va nous toucher, parce que la publicité ciblée, elle est vendue plus cher à des annonceurs si elle est ciblée que si elle ne l'est pas. Et le problème, c'est que on a l'impression qu'on est client de tas de services gratuits, comme les Google, les Facebook, etc., et que c'est génial, qui sont généreux, qui nous font des cadeaux. Mais en fait, ce n'est pas des cadeaux. Ils nous utilisent pour tout savoir de nous et afficher de la publicité ciblée. En fait, on a mis en place, sans le vouloir, ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire des méga-sociétés dont toute l'énergie est focalisée pour tout savoir sur chacun d'entre nous et nous utiliser pour consommer de la publicité.
Mais alors comment ça se passe ? C'est-à-dire par exemple, je décide de partir passer un week-end à Londres, donc je fais des recherches sur un moteur de recherche pour savoir quel est le prix du vol, quel est le prix d'une chambre d'hôtel, etc. À partir de là, est-ce que par exemple, si une personne qui a un autre profil que moi fait la même recherche au même moment, elle aura d'autres réponses qui apparaîtront sur son ordinateur ?
Eh bien éventuellement, parce qu'en fait ils savent déjà plein de choses sur vous. Google par exemple, sait plein de choses sur vous suite aux différentes recherches que vous avez effectuées par le passé. Mais aussi, Google vous a offert Google Chrome, que vous utilisez peut-être. Peut-être utilisez-vous un téléphone avec un logiciel Android dessus, qui est aussi fourni par Google. Et pourquoi est-ce que Google fournit tous ces logiciels et services gratuits ? C'est parce qu'ils lui servent à capter de la donnée et à vous profiler. Et puis donc, même si vous allez à Londres comme une autre personne, eh ben vous n'avez pas forcément le même niveau de revenu, parce que ça aussi, ils l'estiment. Vous avez des goûts qui sont différents et ils vont vous proposer des choses différentes. Il y a eu des études qui ont démontré que si vous faites des recherches depuis un iPhone ou depuis un Mac, qui sont des appareils Apple plutôt haut de gamme, eh bien on a tendance à vous proposer des produits plus chers, peut-être mieux, mais en tout cas plus chers, que si vous faites des recherches depuis un PC, parce que c'est généralement moins cher et plus bas de gamme.
Voilà, donc voilà. Tout est verrouillé finalement.
Je ne sais pas si c'est verrouillé. En tout cas, ce n'est pas très bon d'un point de vue démocratique. Mmh. Hein, si on veut essayer de prendre du recul par rapport au problème, dans la mesure où il faut savoir que quand on se sait observer, On a tendance à s'auto-censurer. En fait, on s'interdit d'être libre. Et là, on est en train d'aller d'un bon pas vers tous ces services qui nous profilent. Et en fait, on est en train de s'éloigner de l'essence même de la démocratie, qui est d'être libre. Et on le voit, il y a une étude passionnante, justement, à l'occasion des révélations Snowden. Quand Snowden a révélé que tous les Américains étaient sur écoute, et par extension, tous les internautes le sont aussi, eh bien, on s'est rendu compte, un sociologue s'est rendu compte en étudiant l'audience de Wikipédia et les pages de Wikipédia concernant le djihad, en particulier tout ce qui était islamisme, salafisme, etc., toutes ces pages-là ont été d'un seul coup beaucoup, beaucoup moins visitées, de l'ordre de 30%, parce que, même si c'était légal avant Snowden et c'est légal après Snowden de voir sur Wikipédia ce que c'est que le djihad, les gens se sont interdits d'aller voir ces pages-là,
en disant,
craignant.
Je vais peut-être me faire ficher.
Voilà,
si
c'est
je
ça,
voir,
je vais peut-être me prendre une cyberballe perdue, si vous voulez. Et ça, ils n'en ont pas conscience, en fait. Et ça veut dire, en fait, que dès lors qu'on est sous surveillance, on perd nos libertés. Et pourtant, on se met sous surveillance en utilisant ces produits gratuits.
Olivier Labbé, vous qui fournissez des data centers, qui sont donc ces serveurs qui stockent ces données, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Vous saviez que l'on pouvait prendre des cyberballes perdues?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, dans mon passé, j'ai été vice-président du comité Big Data du Syntec numérique. Donc je connais cette position. Donc là, c'est vrai que ma position aujourd'hui est plus le bâtiment technique qui va héberger. Mais il y a un rôle important. On va parler de l'Afrique et de sa position par rapport à tout ça. C'est la localisation des données. Si vos données sont hébergées en endroit que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas quelle juridiction va s'appliquer. Et on a vu avec les affaires Snowden tout un tas de choses, que les Américains ont une manière de traiter les données qui n'est pas celle, par exemple, de l'Europe. Il est important donc qu'il y ait une forme de positionnement régalien des données des citoyens. En Europe, l'affaire a été réglée il y a 2 ans. Enfin, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de parler de ce que l'Europe a décidé de faire. L'Afrique est en train de commencer à le faire. Et par contre, pour pouvoir faire ça, il faut ces fameux data centers. Aujourd'hui, il y a moins de 1% des data centers de la planète qui sont en Afrique. Et encore la moitié de ces 1% sont uniquement en Afrique du Sud. Tant qu'ils n'auront pas ces infrastructures, on va dire professionnelles, les Africains ne pourront pas avoir les données africaines en Afrique. Et c'est une première partie du problème, parce que ça veut dire qu'ils ne pourront même pas, quelles que soient les régulations qu'ils mettront dans leur propre pays, les appliquer.
Parce qu'en fait, la régulation s'applique là où les data centers sont, Isabelle Landreau, c'est comme ça que ça marche?
Alors oui, pour faire simple, mais en fait, c'est là où les données sont hébergées. Et donc, les données sont hébergées dans les data centers et la plupart sont en Californie. Donc, Olivier Labbé a tout à fait raison, il faut des data centers dans les États concernés pour avoir une souveraineté numérique. C'est extrêmement important. Et c'est vrai que l'Afrique est en plein boom. Donc, ça a une incidence parce qu'on a eu des choses qui ont été changées, notamment avec ce qu'on appelle le Privacy Shield, c'est-à-dire qu'on avait un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Europe pour dire qu'on avait un même niveau de protection sur la donnée. Cet accord a été remis en cause. On en a fait un autre qui est plutôt bancal et à l'heure actuelle, ça a été remis en cause par Trump. Et donc maintenant, on est un peu dans un grand vide et on va appliquer ce qu'on appelle les BCR, les Binding Contractual Rules, c'est-à-dire les règles contractuelles de chaque société. Voilà. Donc on s'en réfère à l'autonomie des parties, l'autonomie de chaque entité, de chaque entreprise. Donc, il est très important, en effet, d'avoir des data centers dans son état et de pouvoir les contrôler, non seulement les contrôler physiquement, mais aussi les contrôler logiciellement, par des actes de sécurité logicielle.
Tristan Nito.
Je pense que le problème de fond, c'est celui de la souveraineté sur le numérique. La souveraineté des États, mais aussi la souveraineté de l'individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dans le numérique à marche forcée, que ce soit en Afrique ou en Europe. Il y a cette injonction, il faut faire du numérique. Comment t'es pas sur Facebook? Comment tu n'utilises pas Google? Comment t'as même pas de smartphone? Voilà. Il y a vraiment une pression pour aller vers le numérique avec des gens qui sont pas formés, qui, je vous le disais, ne comprennent pas le business model des entreprises, qui comprennent pas qu'ils se font pomper leurs données en échange de services qui valent finalement pas grand-chose. Et si on est obligé d'aller vers le numérique, parce que ça apporte quand même plein de choses, hein, je crache pas dans la soupe, mais il faut faire attention, il faut que l'individu et les États restent dans le contrôle du numérique. Et aujourd'hui, à utiliser ces services qui sont faits en Californie avec des data centers en Californie et à l'étranger, avec des conditions générales d'utilisation qui sont très défavorables à l'individu, et bien en fait, l'individu, il a pas trop le choix. S'il utilise ces services, il est lié par les contrats qui vont avec, et puis ces données, ça y est, elles sont parties. Et ce qu'il faut, c'est avoir des services qui sont plus locaux, plus proches de l'individu, plus respectueux de l'individu et de ses droits.
Et on en est loin, la preuve avec le récent scandale des fuites de données émanant du réseau social Facebook récupéré par la société de communication Cambridge Analytica. Le 10 avril dernier, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a présenté ses excuses personnelles et officielles devant le Sénat américain.
Facebook est une entreprise idéaliste et optimiste. Le plus gros de notre existence, nous nous sommes concentrés sur tout le bien que peut apporter le fait de connecter les gens. Mais il est maintenant clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher que ces outils ne soient utilisés pour faire le mal. Les fausses infos, l'ingérence dans des élections étrangères, les propos haineux. Nous n'avons pas pris assez conscience de notre responsabilité. Et cela a été une grave erreur. Cela a été mon erreur. Et j'en suis désolé.
Et Facebook, c'est quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs. Tristan Nitto, vous me disiez, oui, c'est pas la première fois qu'il s'excuse et il faudrait quand même lui donner une petite claque sur la...
Une grosse claque. Parce que c'est vraiment scandaleux ce qu'il dit. On est désolé, on a exagéré, etc. Mais ça fait 20 fois qui trempent dans des scandales successifs qui n'ont pas été médiatisés suffisamment à mon goût. Et là, la 20e fois, ça y est, on le traîne devant le Congrès américain. Il voulait pas y aller, il voulait envoyer un grouillot à la place. Et puis on a quand même fait comprendre qu'il fallait venir en personne. Il faut arrêter de se moquer du monde. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'en ai eu ma claque, j'ai fermé mon compte Facebook.
Et c'est fini. Et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs.
On est des centaines de milliers à le faire, bien sûr. Parce que là, en fait, si on a l'impression d'un gamin qui joue à l'apprenti sorcier, qui tente toujours des trucs plus bizarres, plus tordus que les autres, et puis à chaque fois qu'il provoque un désastre, il fait « Oh, j'ai pas fait exprès !» et il recommence. Donc il y a un moment, il faut arrêter les bêtises, quoi, pour rester poli.
Alors que faire face à cette situation? Comment, par exemple, les pays africains, on en parlait à l'instant, se mobilisent sur ce sujet? On en parle juste après une petite pause musicale.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous parlons de notre environnement numérique aujourd'hui et de ses perversités. Comment s'en protéger? Nous en parlons avec nos invités car tous les pays s'en préoccupent. C'est notamment le cas du Bénin qui a adopté récemment une loi pour protéger les données numériques de ses citoyens et qui est en train de s'équiper pour les accueillir sur son sol, comme l'a constaté notre correspondante Delphine Bousquet.
L'accès à l'agence du numérique est sécurisé. Normal, le bâtiment où elle se trouve est juste en face de la présidence. Son directeur, Serge Adjovi, est un ancien haut cadre dans l'informatique rentré au pays. L'agence met en œuvre la politique nationale de l'économie numérique. Elle a un cadre légal pour cela, c'est le Code du numérique, adopté en juin dernier.
C'est un document qui rassemble l'ensemble des textes de loi qui existaient. Donc c'est sur les communications électroniques, c'est sur la structuration de la gouvernance, hein, donc la régulation. On a réuni ces textes-là, on les a améliorés et on a rajouté des textes sur des sujets qui n'existaient pas. Typiquement, la cybersécurité, tout ce qui était lié à la protection des données à caractère personnel. Donc on a renforcé les pouvoirs de l'organe qui s'en occupe. C'est vraiment un texte qui constitue le fondement du cadre dans lequel désormais nous devons évoluer.
Ce code, qui compte 647 articles, a été promulgué fin avril. Il sera vulgarisé auprès des ministères comme des start-up. Il était un préalable, selon Serge Adjovi.
Là où on est peut-être pionnier, c'est effectivement de dire, un, nous avons une stratégie que nous voulons exécuter. Ensuite, pour être efficace dans cette exécution, nous avions besoin de mettre l'ensemble des textes dans un seul document. Il est évident que si nous ne légalisons pas l'utilisation de documents dématérialisés, on ne peut pas faire de e-service. On ne peut pas utiliser une signature électronique qui va fluidifier l'action du gouvernement et d'autres.
Autre structure en charge du numérique, l'Agence des services et systèmes d'information, l'ASSI, sous tutelle de la présidence. De la stratégie à la mise en œuvre, elle s'occupe de plus d'une dizaine de programmes, avec les affaires étrangères, le visa électronique, lancé la semaine prochaine, ou la dématérialisation du Conseil des ministres, ou encore le lancement d'une plateforme de paiement pour les services de l'administration, et un data center, un centre de données, un projet phare, selon Maximilien Pogedo, patron de l'ASSI.
C'était important, c'était crucial que le Bénin, pour supporter toute cette politique, cette stratégie donc, de digitalisation de la vie donc, des Béninois, qu'on mette en place un data center. La majorité des services ou des sites web, par exemple, au Bénin, ne sont pas hébergés au Bénin. Lorsque vous prenez des banques qui opèrent au Bénin, leurs données les plus sensibles sont hébergées sur des serveurs à l'étranger. Donc on aura un data center compartimenté de façon sécurisée, bien sûr. Donc une entité pour stocker les données de l'administration, une entité pour stocker les données du secteur privé.
C'est à Calavi, à la périphérie de Cotonou, que le data center est en cours de construction. Muret dalles très épais, 4 mètres sous plafond, les normes exigées pour un équipement de dernière génération, comme l'explique Fréjus Gbagidi, chargé du projet.
Ce bâtiment sera aux normes internationales, donc sera certifié tier 3. On va être le premier data center institutionnel à être certifié tier 3 dans la sous-région. Alors la certification tier 3 correspond à un niveau de disponibilité des services. Le bâtiment doit être disponible 99,999%. Ça veut dire qu'on va tolérer moins d'une demi-journée d'indisponibilité des services par an. On doit mettre en place tous les composants de sorte à ce que, en cas d'indisponibilité d'un composant, qu'il y en a toujours un deuxième qui prend la relève.
Pour l'énergie, ressource pas toujours disponible ni stable au Bénin, ça veut dire 2 arrivées branchées sur le réseau et 4 mégagroupes électrogènes. Mais les installations seront les moins gourmandes possibles compte tenu de l'énorme capacité du data center. Fréjus Gbagidi.
On va mettre en place ici des serveurs de très haute capacité qui contiennent des processeurs de grande puissance. Mais également en termes de capacité de stockage, nous avons vocation à héberger jusqu'à plusieurs dizaines de pétaoctets.
Les pétaoctets, ça veut dire quoi? Des milliards de données?
Alors, pour ceux qui connaissent un peu les unités de mesure de la capacité, nous, on va aller à 1 million de gigaoctets. 1 million de gigaoctets, ça fait 1000 téraoctets, ça fait 1 pétaoctet. Et on a la possibilité d'héberger dans ce data center des dizaines de pétaoctets. Donc vous avez une idée de ce que ça peut représenter.
Et tous ces pétaoctets sont susceptibles d'attirer des géants du secteur comme Google ou Amazon qui veulent se rapprocher des internautes africains. Maximilien Pogedo.
Demain, ces entités pourront utiliser nos infrastructures, par exemple, pour servir leurs clients, donc héberger leurs données chez nous. Donc c'est un élément qui permettra au Bénin, de façon ultime, de passer de consommateur à fournisseur de services numériques.
Cela permettra aussi de financer le data center pour lequel le Bénin investit 15 millions d'euros. Il devrait commencer à fonctionner au début de l'année prochaine.
Un reportage de Delphine Bousquet-Olivier Labbé, voilà, un reportage au Bénin. D'autres pays sont en train de s'organiser en Afrique de l'Ouest?
Oui, je dirais beaucoup de pays en Afrique subsaharienne sont en train vraiment d'avancer très très vite. Le Mali avait fait aussi un code du numérique il y a quelque temps. Celui du Bénin, donc, effectivement, a été annoncé l'an dernier, il est très complet. Le Sénégal, enfin, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont en train d'avancer pour fournir un cadre légal, ce qui est juste indispensable, parce que pour permettre l'arrivée des données, en particulier celles des GAFA ou des grands acteurs de l'informatique, il faut proposer...
Alors, GAFA, c'est Google,
Amazon, Facebook, Apple, et puis vous rajoutez GAFAM avec Microsoft, voilà. Il faut leur donner confiance dans l'outil qui va être mis à leur disposition dans ces pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de data center, donc les données, de facto, ne sont pas positionnées en Afrique, elles sont positionnées essentiellement aux États-Unis, voire en Europe. Pour pouvoir proposer cet outil, donc l'Afrique représente quelques handicaps, on aura l'occasion d'en reparler, c'est la partie chaleur,
l'énergie.
Température.
Mmh.
Voilà. Enfin, l'énergie, je dirais, c'est pas tant un souci que ça. L'Afrique manque d'énergie, on le sait, mais c'est beaucoup plus global.
Les data centers, ça
consomme beaucoup d'énergie, c'est évident.
Il faut les refroidir dans des pays où il fait
extrêmement
chaud.
Mais voilà, c'est plutôt cette notion-là. Malheureusement, une nouvelle fois, l'Afrique a un peu un handicap en l'occurrence, parce que l'énorme quantité de serveurs au sein d'un bâtiment clos génère énormément de chaleur qu'il faut refroidir pour permettre le fonctionnement. C'est pour ça que des très gros data centers ont été créés en Scandinavie, parce qu'effectivement, vous avez une performance énergétique bien meilleure et les consommations énergétiques sont telles qu'il vaut aller mieux, si on a le choix, se mettre près du pôle Nord qu'en Afrique. Donc ça, une nouvelle fois, malheureusement, pas de chance pour l'Afrique. Je vais quand même faire un petit bémol. On peut tout à fait, avec des technologies modernes, construire des data centers professionnels qui tiennent compte du climat africain. Ça coûtera peut-être un peu plus, j'estime à 30% sur un data center, par exemple, qu'on a livré à Douala au Cameroun récemment. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Après, une fois qu'on a fourni donc ces data centers qui doivent répondre à un premier objectif, c'est d'être fiable. Il faut pas que ça tombe en panne. Aujourd'hui, l'informatique ne peut plus tomber en panne. Donc ce qu'on demande à un data center, c'est d'être sécurisé, redondé, c'est-à-dire que même s'il y a une panne électrique, ça continue à tourner, même s'il y a une panne de climatisation, ça continue à tourner. Donc tout ça, ce sont des data centers professionnels qui manquent encore aujourd'hui à l'Afrique, et ce sur quoi donc nous travaillons. Mais ce qui manque le plus, c'est ce cadre numérique. Parce que si vous avez un très bon data center professionnel...
Le cadre législatif, vous voulez dire?
Exactement. Mmh. Le cadre du code numérique tel que celui qui a été présenté sur le Bénin. Mmh. Si vous avez un très bel outil, où vous dites « je vais pouvoir aller stocker mes données à l'intérieur de ce data center », mais que vous n'avez pas confiance dans la manière dont l'État, les citoyens vont pouvoir utiliser les données qui sont à l'intérieur, personne ne viendra, personne n'aura confiance pour aller mettre ces données dans ce pays.
Alors Samuel Guetta, vous êtes, je rappelle, en duplex d'Aix-en-Provence. Vous dites que cette circulation des données, parce que là on est beaucoup dans l'inquiétude à dire « oh là là, au secours, on nous pille ». Mais vous dites que cette circulation des données, c'est peut-être une bonne nouvelle hein, aussi, notamment lorsqu'on parle d'open data. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il ?
Alors l'open data, c'est un mouvement qui existe depuis une dizaine d'années et qui défend la circulation des données qui sont produites par le service public, qui sont des données d'intérêt général et qui sont généralement pas nominatives, pas personnelles. Donc c'est un cadre qui est respectueux de la vie privée et qui permet de créer des services innovants, qui permet aussi de développer des contre-pouvoirs citoyens qui s'appuient sur des données qui sont librement réutilisables par tous et toutes.
Alors par exemple ?
Par exemple, en France, jusqu'avant le mouvement de l'open data, on avait des données par exemple, sur les accidents de la route. On pouvait savoir par département, par an, combien il y avait d'accidents dans chaque département. Depuis l'arrivée, le lancement d'un portail qui s'appelle data.gouv.fr en 2011, il y a un fichier qui permet de savoir exactement où ont eu lieu les accidents de la route, quelles ont été les conséquences pour les personnes impliquées et les types de véhicules impliqués. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet, par exemple, de lancer des mobilisations citoyennes sur des zones qui sont particulièrement accidentogènes. Et donc, ça permet aux citoyens d'être au même niveau d'information que l'administration, de vraiment réduire les asymétries d'information et d'avoir les données dans leur plus grande finesse, dans leur plus grande granularité. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller au plus proche des phénomènes et donc de mieux les étudier. C'est un peu ça l'idéal de l'open data, c'est de mettre tout le monde sur un niveau d'égalité en termes d'information et d'avoir disposé du matériau même qui permet de faire l'information et le savoir.
Et donc là, on est plutôt dans une dynamique positive et vous dites c'est même une bonne nouvelle pour la démocratie.
Ouais, je pense que là, on tient entre nos mains un peu le contre-pouvoir des données avec l'open data et c'est dommage que ce mouvement ait été pris peut-être trop sous un angle technique alors qu'en fait, il y a un potentiel démocratique extraordinaire et on parlait de l'Afrique et on commence à voir émerger des mouvements qui réclament dans pas mal de pays africains des mouvements open data et plus largement l'émergence d'un droit d'accès à l'information qui est produite par le secteur public parce que aussi on a beaucoup parlé des données au sens de ce qui circule, ce qui est capté sur les individus, mais aussi il faut se rappeler que les données servent au savoir et à la décision et donc si on a accès au matériau même, à ces données là qui permettent de prendre des décisions, si les citoyens peuvent les exploiter, on peut faire émerger de nouveaux contre-pouvoirs et engager un dialogue qui soit plus éclairé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymétrie entre l'information dont dispose le secteur public et celle des citoyens.
Mais pour cela, il faut un cadre, j'imagine, législatif qui facilite tout ça. Alors Isabelle Landreau, vous êtes avocate, vous allez nous faire un petit cours de droit en quelques minutes, un rapide condensé. Mais il y a donc ce règlement général sur la protection des données qui a été voté en 2016 et qui va être appliqué dans l'Union européenne à partir du 25 mai prochain. Alors de quoi s'agit-il, que ce soit pour la protection des données ou pour l'ouverture justement de l'accès aux données publiques?
Alors le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données est un texte donc européen d'application immédiate, donc 25 mai 2018, et il a deux axes essentiels. C'est un, l'augmentation des droits du citoyen, donc c'est vrai que là, on améliore, si vous voulez, les outils de la démocratie, par notamment le droit d'accès, qui est déjà dans la loi 78, mais aussi par le droit de rectification, et puis par des droits nouveaux qui sont, par exemple, le droit de la portabilité des données, c'est-à-dire lorsque vous voulez changer d'opérateur bancaire ou d'opérateur téléphonie, et bien, ils ont l'obligation de transférer les données d'un opérateur à un autre. Et puis, bien sûr, il y a le droit à l'oubli, qui est donc un peu vulgarisé par ce mot. C'est plutôt un droit au déréférencement. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de demander le retrait d'un lien sur lequel les informations sont fausses ou sont obsolètes ou elles vous nuisent et portent un préjudice. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis, il y a le deuxième axe, qui est l'axe de la sécurité, de la cybersécurité, et notamment par un personnage fort qui s'appelle donc le délégué à la protection des données, ou le DPO, Data Privacy Officer en anglais.
Donc voilà ce nouveau métier.
Ce nouveau métier, exactement, qui est ouvert à tout le monde. Il faut avoir une culture juridique, une culture technique et organisationnelle aussi. C'est un peu le nouvel homme fort de toutes les entreprises numériques, parce qu'il va accompagner le président de la société, le DSI, dans la gestion de la donnée pour la protection des citoyens. Donc c'est extrêmement important, puisqu'il y a des sanctions qui sont augmentées, hein, de 2 à 4% du chiffre d'affaires global annuel, donc c'est entre 10 et 20 millions d'euros, mais c'est aussi des process à mettre en place, c'est aussi une étude d'impact sur la vie privée à réaliser, donc il y a toute une liste d'outils qui sont intégrés dans ce nouveau règlement.
Voilà une législation dont de nombreux pays pourront s'inspirer. Maintenant, que pouvons-nous faire, nous, à notre niveau de petits citoyens? On en parle juste après une petite pause musicale. On the cloud of unknowing, my world seems open. Every satellite up here is watching. But I was here from the very start, trying to find a way to your heart. Oh, the days of forgetting, they've gone out with the tide.
lost at sea somewhere, waiting, like setting suns at the rodeo, trying to find someone you never know. Sinking love on the cloud of unknowing, every satellite up here is watching, waiting to see what the morning brings. May bring sunshine on its wings.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, ne changez rien car nous allons tout de suite vous donner un cours d'hygiène numérique. Et oui, ça s'appelle comme ça, apprendre à mieux gérer son comportement pour mieux protéger sa vie privée et diminuer notre impact. Bonjour Alexandre Millet.
Bonjour.
Vous êtes donc l'un des fondateurs de Qu'est-ce qu'on fait, un nouveau média en kiosque et sur le web pour comprendre les grands enjeux planétaires et les relier à notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ses données sur Internet? Vous avez un travail difficile parce que vous êtes entouré de spécialistes.
Oui.
Alors, en quelques mots.
Alors, c'est une question effectivement très difficile à l'heure où Google est devenu le plus grand des confidents et lorsque notre vie s'étend en long et en large dans des fils d'actualité en ligne. On aime, on clique, on s'amuse, on cherche, on partage. Sur le net, on peut tout savoir sur tout et les entreprises peuvent savoir presque tout sur nous sans jamais avoir osé le demander, tout du moins clairement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voici quelques conseils pratiques pour les internautes que nous sommes. En se connectant à un site, on donne en permanence des informations sur notre navigation, notre âge, nos goûts, nos préférences sexuelles, mais on peut néanmoins appliquer quelques principes de base pour protéger sa vie privée. Par exemple, désactiver la géolocalisation systématique. On peut choisir aussi des mots de passe longs et différents pour chaque compte ou surfer à l'aide d'un VPN, d'un réseau privé virtuel qui va changer en permanence notre adresse IP. On peut aussi équiper son navigateur d'extensions qui bloquent des pubs, des adblocks ou les requêtes des sites tiers. Et pour les réseaux sociaux, plusieurs sites internet proposent des tutoriels pour se désinscrire de ses comptes. Mais c'est compliqué et très souvent on ne quitte jamais vraiment Facebook, Tinder ou WhatsApp. Même si on fait attention aux informations que l'on y échange, nos contacts ont parfois déjà partagé des informations sur nous, en donnant par exemple accès à leur répertoire téléphonique. La vraie solution, c'est ne pas y être ou y publier le moins d'informations possible.
Oui, carrément, mais c'est difficile quand on est ado, par exemple, et même adulte, hein, finalement, de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quand même une solution aussi, c'est choisir un bon moteur de recherche.
Oui, il existe de plus en plus d'alternatives intéressantes à Google, mais si nous devions n'en choisir que trois, ce serait d'abord Lilo, une petite entreprise française née en 2014 qui s'engage à ne pas enregistrer et revendre les données personnelles de ses utilisateurs et à réinjecter la moitié de son chiffre d'affaires dans le financement de projets sociaux et environnementaux. Il y a aussi Ecosia, qui joue pour sa part dans une cour exclusivement écologique. L'idée, c'est que 80% des revenus générés par les publicités diffusées sur le moteur de recherche sont utilisés pour contribuer à des programmes de reforestation à travers le monde. Et le troisième, ce serait Quant, qui lui fait le choix de rendre plus pertinents et plus impartiaux les résultats de recherche, ne gageant pas, comme Google, sur le profilage et la simple popularité des requêtes.
Merci Alexandre Millet.
C'est pas du vent sur RFI.
Alors Alexandre Millet, vous parliez à l'instant du moteur de recherche Ecosia. Nous sommes justement en ligne avec Ferdinand Richter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant français d'Ecosia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment le fait d'utiliser votre moteur de recherche permet de planter des arbres?
Comme on vient de l'entendre déjà, c'est grâce aux bénéfices qu'on fait avec les publicités qu'on voit sur les moteurs de recherche qu'on génère de l'argent. Donc, en moyenne, chaque utilisateur génère 30 euros par an. Et cet argent-là, on peut décider ce qu'on fait avec. Et comme nos collègues Lilo, on investit cet argent dans des projets de reforestation un petit peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est plus de 25 millions d'arbres qui sont déjà plantés. On a une vingtaine de projets. Et ça commence vraiment à prendre, donc c'est vraiment génial.
Oui, c'est vrai que je dois avouer que j'utilise Ecosia personnellement et que j'ai planté grâce à vous, enfin c'est ce qui est écrit sur mon petit moteur de recherche, 2500 arbres. Alors vous soutenez de nombreux projets, notamment en Afrique.
Exactement. C'est un petit peu dans le monde, il y a des biodiversity hotspots, comme on dit. Donc c'est des zones où souvent c'est des pays très pauvres. où la biodiversité est vraiment en danger et où il y a une vraie concurrence avec les multinationales qui viennent racheter les terres. Et aujourd'hui, les populations locales n'ont pas forcément d'autre choix que de vendre leurs terres parce que c'est très pauvre. Et nous, on essaie de leur donner une alternative, c'est-à-dire de ne pas revendre leurs terres, de prendre soin, de relancer un petit peu l'économie locale en plantant des arbres. Et ça permet après de vraiment recréer des écosystèmes qui permettent de construire des écoles, de mettre un peu d'argent de côté, d'impliquer justement des populations locales et de prendre soin des terres, tout simplement.
Notamment au Burkina Faso, à Madagascar, je crois.
Exactement. Oui. Et là, on est aussi avec la fondation Jane Goodall en Ouganda, on est en Tanzanie, en Éthiopie, au Sénégal, et il y en a plein d'autres qui vont venir.
Merci Ferdinand Richter. Donc, Decosia, un moteur de recherche avec lequel vous pouvez planter des arbres. Tristan Nitto, ça c'est plutôt une bonne pratique.
Ah, mais je trouve que c'est excellent. Hein. Déjà, c'est excellent de réaliser que Google n'est pas une fatalité, même si on s'en sert beaucoup en France, il y a des alternatives qui doivent correspondre à vos valeurs, quoi. Donc que vous preniez ILO ou Ecosia ou Quant, qui est vraiment très bien aussi, moi que j'utilise.
Mais est-ce que ça garantit la protection de nos données? Alors, c'est bien, on plante deux arbres, mais finalement la circulation des données reste pareil.
Non, mais en fait le problème, si vous voulez, c'est que le moteur de recherche, c'est le truc à qui on pose toutes les questions qu'on a avant même qu'on ose en parler à qui que ce soit. C'est-à-dire, vous avez une rougeur mal placée, vous allez poser la question au moteur de recherche. Vous oseriez en parler à personne, éventuellement avec votre médecin, mais bon, c'est quand même gênant. Alors que le moteur, on lui dit tout. Et si son job, c'est de tout savoir sur vous pour vous envoyer de la publicité ciblée, c'est pas le meilleur des confidents. Donc il faut choisir un moteur qui s'engage sur le non-pistage de ses utilisateurs. Si vous allez sur Google et que vous avez votre compte Gmail ouvert dans un onglet où vous y allez depuis votre téléphone Android, il sait qui vous êtes, il sait que vous avez une rougeur mal placée. Alors que si vous allez sur Quant depuis un ordinateur, tout ce que Quant, c'est un utilisateur, mais je ne sais pas qui, a une rougeur mal placée, et donc je lui donne les réponses que j'ai trouvées dans mon index, et voilà. Ça s'arrête là, vous avez votre réponse, et votre vie personnelle est sur des choses sensibles, et protégée.
Alors, autre bonne pratique d'hygiène numérique, devenir maître de ses données, Isabelle Landreau, c'est la conclusion de votre rapport, mes data sont à moi, alors comment fait-on?
Alors oui, donc c'est une proposition, et qu'on essaie d'essaimer en Europe et ailleurs, et je pense que c'est le bon moment, justement, avec le scandale de Facebook et Cambridge Analytica. Donc, comme l'a dit mon voisin, on laisse nos données à disposition gratuitement, plus ou moins consciemment, à des géants de l'informatique qui en font leur miel et qui les revendent pour faire de la publicité ciblée. Et donc finalement, bien sûr, nous, on devient objet, on devient l'objet de consommation et l'objet de tout un trafic qui nous dépasse. Donc la proposition, c'est que la donnée que nous-mêmes nous générons, le citoyen, le cyber-citoyen comme j'aime à l'appeler, est le maître de ces données puisqu'il est le premier générateur de cette richesse. Et donc, on va décider par l'usage de la chaîne de blocs, le blockchain en anglais, d'intégrer dans des smart contracts le consentement en fonction d'une exploitation catégorielle de ces données pour un moment donné.
Alors, on va prendre l'exemple simple de l'opération de l'appendicite. C'est comme ça que vous m'avez expliqué les choses avant l'émission.
Voilà, donc c'est exactement, c'est très simple. C'est-à-dire, vous souffrez d'appendicite. Donc, vous allez dans un hôpital ou une clinique, vous avez votre médecin généraliste référent, vous avez votre assureur, vous avez des infirmiers et des médecins autour de vous, vous avez l'hôpital, eh bien vous consentez à dire je veux bien qu'on exploite les données de santé, qui sont des données sensibles, hein, c'est l'article 8 de la loi de santé du RGPD, donc je consens à l'exploitation catégorielle de ces données sensibles pour un moment donné et je consens à ce que ces données soient exploitées pour mon assureur qui va réviser ma police d'assurance, pour l'hôpital qui va faire des statistiques sur cette maladie, et ainsi de suite.
Et en échange, je suis rémunérée.
Et en échange, je suis rémunérée, donc par un smart contract, par des micro-paiements, des nano-paiements. Donc tout ceci peut se faire par la technologie actuelle, ceci va évoluer bien sûr, mais l'idée c'est qu'on remet le cybercitoyen dans une chaîne économique et qu'on passe, comme l'a dit mon voisin, d'une économie du capitalisme de la surveillance à un capitalisme de la confidentialité. C'est-à-dire que le citoyen doit décider de son degré de confidentialité et de savoir ce qu'on veut faire de ses propres données. Il est le premier générateur, il doit savoir et pouvoir exploiter ses données.
Samuel Guetta, comment réagissez-vous à ces propos ?
Ben, je pense que ça peut être intéressant de vendre ses données personnelles. Après, la question qui se pose, c'est que quand on est riche, on n'aura pas besoin de les vendre. Et donc, ça risque de créer une certaine forme d'inégalité. L'autre réaction que j'aurais, c'est que la valeur des données, elle est due à leur agrégation. Donc, si on rend certaines données, on les vend, on les fait circuler, ce qui est important, c'est le fait qu'elles soient agrégées, qu'elles soient collectées dans des plus grands ensembles. Et donc, en fait, la valeur même de ces données risque d'être assez limitée. Ce qu'on voit, c'est que c'est une négociation collective qui est en train de s'engager. C'est un combat qui est collectif, qui doit se défendre de manière plutôt citoyenne et à une plus grande échelle.
Mais vous vous dites qu'il faut développer la data literacy, alors ça se traduit en français par la littératie des données, ça veut dire quoi ?
Alors la littératie de données, c'est justement un terme qu'on développe à Aix-en-Provence lors d'une conférence internationale qui se tient tous les ans et qui essaye de faire en sorte que le pouvoir des données soit enfin partagé. La data literacy, c'est faire en sorte que utiliser, connaître les données, c'est une compétence essentielle comme compter, lire et écrire, et essayer de faire que les citoyens comprennent les données qui sont produites sur eux. C'est-à-dire que jusque-là, tout ce qu'on a entendu, c'était une forme d'invisibilité des données. On collecte des données, mais on les voit pas. Moi, je pense qu'il est important, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de produire ou d'utiliser des données. Alors, je peux proposer certaines idées. Par exemple, en France, il y a eu une enquête qui pourrait être internationalisée, qui est l'enquête Parlons Vélo, dans laquelle 150 000 personnes ont collecté des données sur le niveau de cyclabilité, sur la facilité d'utiliser du vélo en ville. On peut aussi contribuer à OpenStreetMap, qui est la plus grande base de données ouvertes sur tous les éléments qui sont présents dans l'espace public, notamment les routes, mais aussi les trottoirs, enfin plein de choses qui sont des données qui sont très utilisées dans beaucoup de services numériques. Open Food Fact sur tous les produits alimentaires. Et on peut aussi participer à certaines enquêtes quantifiées. En France, il y a une enquête qui a bien marché, qui est sur un sujet un peu plus humoristique, qui est que dans certaines zones de la France, on parle de pain au chocolat et dans d'autres, on parle de chocolatine. Et là, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont entré leur code postal pour dire chez moi, on parle de pain au chocolat ou de chocolatine, ce qui a produit une carte qui a été très partagée. Donc c'est par exemple
Je vais aller voir ça tout de suite après l'émission parce que c'est un gros sujet de discorde entre François Porcheron, le réalisateur de l'émission, et moi-même. Merci beaucoup Samuel Guetta pour ces informations. Olivier Labbé, ce sera le mot de la fin. Donc on le comprend bien, les pays africains doivent faire face à tous ces enjeux. On en a évoqué de nombreux. Hein. Le défi est vraiment important. Il faut s'y mettre rapidement et avec beaucoup de conscience.
Alors oui, puis j'ai terminé par un message positif. On est dans une mission francophone, donc je vais m'adresser aux Africains francophones. Vous avez une superbe opportunité. On a surtout parlé de Google, Facebook, Amazon, etc., que des Américains.
Alors il y a un Amazon africain qui vient d'être lancé.
Oui, justement, je vais y venir. 80% de la capitalisation actuelle du numérique est détenue aux États-Unis. Il y a un endroit, c'est le petit village d'Astérix, entre guillemets, où il y a encore une chance de créer une contrepartie, c'est l'Afrique francophone. Naturellement, les Google, Facebook iront en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, parce qu'ils y retrouvent la même langue, une forme culturelle plus proche d'eux. Donc l'Afrique francophone a encore peut-être, je ne sais pas, 4-5 ans avant que les GAFA débarquent. Ils ont le temps, et c'est juste important parce que le président de Guinée Alpha Condé explique bien que l'Afrique n'a pas le droit de rater la 4e révolution industrielle. Ils ont le temps de construire des Jumia, celui que vous évoquiez qui est l'Amazon africain. Je crois que vous avez reçu un Lenali qui a fait au Mali une espèce de Facebook. Vous avez encore les 5 ans devant vous pour créer une alternative à ces acteurs qui aujourd'hui ont fait une espèce de monopole de fait sur les données.
Voilà, le défi est lancé. Merci à tous d'être passés dans C'est pas du vent. Alexandre Millet, votre magazine, hein, qu'est-ce qu'on fait, est consacré ce mois-ci à ces enjeux de notre rapport donc avec notre environnement numérique en kiosque et sur Internet. Et on peut retrouver l'infographie que vous avez fabriquée à l'occasion de cette émission sur votre site et sur nos supports RFI. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.